travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen-Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être à cap depuis le 18 juin 1940.
Chacun ayant à la main deux petits coffrets, l'un avec la médaille frappée au portrait d'Alfred Nobel.
Et... Au nom de l'Institut Caroline, je vous invite à descendre de l'estrade et recevoir votre prix des mains de Sa Majesté.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque. Et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour, mes chères auditrices, mes chers auditeurs. Voici donc que nous nous retrouvons à l'orée de la 20e saison de Concordance des temps. Cette longévité est due bien sûr à la confiance de la direction de France Culture, mais elle est aussi très directement le fruit de votre fidélité. Soyez-en donc remerciés. Ce matin, j'ai choisi un sujet suscité par le tremblement de terre qui vient de secouer l'Académie suédoise. Cette noble institution, copiée sur la nôtre en 1786, est chargée d'attribuer depuis 1901 le prix Nobel de littérature. Les accusations de harcèlement sexuel portées contre le mari d'une académicienne ont abouti à des démissions en chaîne parmi les 18 membres de cet organisme. À telle enseigne que le quorum nécessaire n'est plus assuré et que le prix ne pourra pas être attribué cette année. Et cela à la surprise générale et aux grands dames notamment des éditeurs et des lecteurs du monde entier. Voilà bien un étrange naufrage qui, même s'il se trouve bientôt réparé, appelle un retour en arrière sur l'histoire du prix Nobel, ou plutôt des prix Nobel. Ces prix Nobel qui sont dus au rôle posthume d'un prodigieux personnage, Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite. Pour cette exploration, j'ai convié Robert Kopp, professeur de littérature française à l'université de Bâle. Il y occupe une chaire prestigieuse, qui fut occupé notamment avant lui par Albert Béguin et Jean Starobinski. La curiosité de Robert Kopp s'est élargie de longue date à tous les aspects de la vie intellectuelle et scientifique depuis l'aube du XIXe siècle. Et pour commencer, écoutons Albert Camus à Stockholm, 1957.
Sire, Madame Altesse Royale, Mesdames, Messieurs, en recevant la distinction dont votre libre académie a bien voulu m'honorer, ma gratitude était d'autant plus profonde que je mesurais à quel point cette récompense dépassait mes mérites personnels. Tout homme, et à plus forte raison tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi. Mais il ne m'a pas été possible d'apprendre votre décision sans comparer son retentissement à ce que je suis réellement. Comment un homme presque jeune, riche de ses seuls doutes et d'une œuvre encore en chantier, habitué à vivre dans la solitude du travail ou dans les retraites de l'amitié, n'aurait-il pas appris avec une sorte de panique un arrêt qui le portait d'un coup seul et réduit à lui-même au centre d'une lumière crue? De quel cœur aussi pouvait-il recevoir cet honneur, à l'heure où en Europe d'autres écrivains, et parmi les plus grands, sont réduits au silence, et dans le temps même où sa terre natale connaît un malheur incessant? J'ai connu ce désarroi et ce trouble intérieur. Pour retrouver la paix, il m'a fallu en somme me mettre en règle avec un sort trop généreux. Et puisque je ne pouvais m'égaler à lui en m'appuyant sur mes seuls mérites, je n'ai rien trouvé d'autre pour m'aider que ce qui m'a soutenu tout au long de ma vie et dans les circonstances les plus contraires, je veux dire l'idée que je me fais de mon art et du rôle de l'écrivain.
Robert Cobb, bonjour.
Bonjour.
Nous avons donc entendu Albert Camus. J'ai choisi ce texte, ce beau texte, parce qu'il me paraît d'entrée de jeu poser un certain nombre de problèmes, décrire un certain nombre d'aspects du sujet que nous allons traiter ce matin. Je rappelle que la terre natale qui connaît un malheur incessant, c'est naturellement l'Algérie. Mais dans ce propos, nous voyons une réflexion sur la situation de l'écrivain dans sa solitude par rapport à l'universalité. Et puis, la grande question de l'œuvre achevée ou en chantier, doit-on célébrer un personnage qui a déjà derrière lui toute son œuvre créée ou quelqu'un qui est en train de commencer, qu'il faut encourager. Et puis la grande question du rôle d'influence au service de la liberté. Voilà un beau programme, non ?
Oui, voilà un programme très important. Et en effet, le discours de Camus est très important et par le fond et par la forme. Alors, par la forme, c'est presque anecdotique. On sent un peu l'émotion qui transparaît dans la voix de Camus et elle est peut-être dû à la fois à l'importance de l'honneur qui lui est fait et à la cérémonie dans laquelle il se trouve, un cérémoniel qui n'a pas varié depuis 1901. Il ne faut pas oublier que le matin, les lauréats répètent la cérémonie et qu'elle est exécutée, si vous voulez, comme une sorte de ballet.
Un rituel extrêmement solennel, ils sont en culpie, en habit.
Extrêmement solennel, un rituel comme il ne s'en trouve plus nulle part ailleurs, a-t-on l'impression. Et puis, par le fond, Camus est un lauréat relativement jeune. Alors, le prix Nobel, de façon générale, devrait récompenser une découverte faite dans l'année ou dans l'année précédente. Du moins, c'est ce que dit le testament. Mais pour la littérature, évidemment, il s'agit plutôt de l'œuvre. Et la plupart des lauréats, si on regarde le palmarès depuis 1901, sont des écrivains accomplis. Et d'ailleurs, au moment même où Camus a reçu la nouvelle qu'il serait distingué par le Nobel, il semblerait avoir dit « Tiens, c'est Malraux qui devrait l'avoir ». C'est en tout cas un mot qu'on lui prête.
Pourquoi est-ce que Malraux ne l'a pas eu d'ailleurs ? C'est intéressant
de
le rappeler.
Je pense que c'est le passé communiste ou le passé proche des communistes de Malraux.
Ou le présent gaulliste.
Qui, nous sommes en 57.
Mais on sait déjà qu'il a été au RPF, voilà. Oui, avec De Gaulle.
Voilà. Donc c'est à la fois le communisme, entre guillemets, et le gaullisme qui a sans doute retenu l'Académie suédoise. Et puis l'allusion, ça montre bien qu'il y a une implication politique dans le prix depuis toujours. L'allusion aux écrivains qui sont réduits au silence, c'est-à-dire l'allusion au pays totalitaire où la liberté d'expression n'existe pas, en l'occurrence essentiellement l'URSS et la Chine.
Si on rejoint l'idée qu'avait portée Nobel dans son testament, Alfred Nobel, l'idée qu'il s'agissait de célébrer une littérature qui porte un idéalisme.
Oui, c'est une expression qui a prêté le flanc à des critiques et à des interprétations parce que, est-ce que c'est idéalisme ou portant un idéal ? Et c'est parfois quand les présidents de l'Académie suédoise sont quelque peu conservateurs. Le premier terme, l'idéalisme qui prévaut, et puis quand ils sont plus ouverts, c'est plutôt portant un idéal qui prévaut. En effet, cet idéalisme est à rapporter à l'époque du temps. Certes, Nobel lui-même est un homme qui croit au progrès. C'est un homme de son temps. C'est un ingénieur du 19e siècle.
Oui, présentons-le, ce Nobel sans qui rien de ce que nous traitons aujourd'hui n'aurait
lieu. Il faut rappeler peut-être simplement sa date de naissance et sa date de mort, 1833-1896. Il est né à Stockholm, il est mort à Sanremo en Italie. Quand on dit 1833, on désigne par là la génération de Ibsen, de Zola, de Manet, de Gustave Eiffel, par exemple. Il est né À Stockholm, il faut peut-être rappeler que c'est un pays protestant qui, à l'époque, a à peu près 4 millions d'habitants, qui est en train de s'industrialiser tardivement, mais très rapidement, qui connaît beaucoup d'ingénieurs. C'est une époque d'ingénieurs. L'ingénieur est le grand homme de l'époque. Il ne faut pas oublier que il y avait d'autres ingénieurs qui ont laissé des découvertes jusqu'aujourd'hui.
Mais celui-là est quand même extraordinaire. Oui, il y a aussi Kruger, l'homme des allumettes suédoises.
Exactement, l'homme des allumettes suédoises. Ensuite, Ericsson, l'homme des télécommunications. Nobel lui-même est d'une famille d'ingénieurs. D'une famille d'ingénieurs, on peut remonter assez loin et montrer qu'il y a une sorte de tradition scientifique dans la famille. Un de ses ancêtres a publié un livre de science-fiction, Atlantis, c'est-à-dire c'est encore un roman de l'Atlantide.
Avant Pierre Benoît.
Absolument. Avant Pierre Benoît et avant Jules Verne et ses 20 000 lieues sous la mer et avant Tolkien.
Mais notre homme est un prodigieux inventeur. Il a déposé des centaines de brevets.
Oui, 350 au moins. C'est un ingénieur, c'est un inventeur, plus qu'un scientifique, un expérimentateur. Et il a poursuivi la carrière de son père, qui d'ailleurs a eu un revers de fortune. Il a eu un revers de fortune, il a fait faillite en Suède, il a dû s'exiler, il est allé en Russie. Pourquoi ? Parce que le tsar a fait venir des ingénieurs suédois en grand nombre pour moderniser son pays. Ils étaient exempts de services militaires et exempts d'impôts pendant un certain nombre d'années, donc...
Mais le fils prend la revanche.
Le fils prend la revanche, mais déjà le père prend la revanche en Russie parce que l'entreprise familiale fournit pour la guerre de Crimée des torpilles, fournit des moteurs pour les bateaux dont certains modèles semblent être utilisés jusqu'à la Première Guerre.
Enfin, notre homme, lui, invente non seulement la dynamite, ce qui est fondamental, mais aussi le détonateur, ce qui permet de manier la dynamite sans trop de danger.
Oui. Mais la dynamite, d'abord, c'est la nitroglycérine. C'est la nitroglycérine qui est extrêmement fragile et extrêmement difficile manipuler. Souvenez-vous du salaire de la peur. Qu'est-ce qu'on transporte dans les bonbonnes ? C'est de la nitroglycérine.
Charles Vanel et Yves Montand.
Voilà. Et la nitroglycérine doit être fixée. Et elle est fixée par une pierre qui est le kieselgour et qui permet de la sécher. Elle n'est donc plus liquide, mais sous forme de poudre et elle peut exploser par un détonateur.
D'ailleurs, notre Alfred Nobel a un petit frère qui explose de la sorte.
Et qui explose de la sorte, ce qui montre bien que on travaillait dans des laboratoires, on faisait des expériences et Nobel avait partout où il s'est installé, à la fois à Stockholm, puis très rapidement à Paris, et puis près de Paris à Sevran, et ensuite à San Remo en Italie, il avait près de son domicile, si ce n'est à domicile, un laboratoire pour expérimenter.
Un grand cosmopolite. D'ailleurs, on dit qu'il a connu Victor Hugo, qu'il aurait appelé le vagabond le plus riche d'Europe.
Oui, absolument. Un cosmopolite, il a appris les langues très tôt. Le suédois, évidemment, le russe, ensuite l'allemand, le français, l'anglais. Et il est venu à Paris relativement tôt. Il s'y est installé dans les années 70, donc tout de suite après la guerre franco-allemande. Et c'est de là qu'il a fait breveter, justement, la dynamite.
Cet ingénieur est un tempérament d'ailleurs très riche. Il était un homme de lettres frustré. Lui-même, il a publié des poèmes. Et
un roman.
Qui n'a pas été publié, mais qui prouve qu'il avait cette frustration. Il avait un tempérament assez mélancolique d'ailleurs, puisqu'il disait de lui-même qu'il était un misérable avorton qui aurait dû être étranglé par un médecin philanthrope aussitôt que d'un cri, il eût annoncé son entrée à la vie. Un peu de coquetterie peut-être.
Oui. un grand solitaire, dit-on. Il a néanmoins fréquenté Mahon et Grévy. Il a été ami avec Victor Hugo dans les années 70-80.
La baronne von Stüttner, qui était une grande figure du pacifisme avant la Grande Guerre.
Oui, et un tempérament assez solitaire. Et quelqu'un qui, d'ailleurs, ne faisait pratiquement que travailler.
Et c'est l'homme qui a surpris tout le monde lorsque, richissime, il a considéré que l'héritage était une idée néfaste. Il est assez saint-simonien.
C'est un saint-simonien, absolument. Oui. Il est totalement contre l'héritage. Il dit que l'héritage amollit les familles, que chacun doit se dérouiller. Ceci dit, sa fortune a été consacré aux différents prix Nobel et une toute petite part, je crois 1,5 million de couronnes or suédoises, est allée à ses deux neveux et à un certain nombre de personnes qui lui a rendu service au cours de sa vie.
Mais l'essentiel est ailleurs et je vais vous faire entendre le très fameux testament d'Alfred Nobel, qui a été ensuite naturellement discuté par tous ceux qui auraient pu être partie prenante à son immense fortune, mais qui finalement, vous allez voir, a été parfaitement respecté. C'est un extrait d'une évocation scénarisée de Jacques Panigel dans les Soirées de Paris. Ce texte remonte au 16 décembre 1956, c'est-à-dire, si je calcule bien, à 62 ans d'ici.
Testament d'Alfred Bernard Nobel. La totalité de mes biens réalisables devra être utilisée de la façon suivante. Le capital sera investi par mes exécuteurs en placement de toute sécurité et constituera un fonds dont l'intérêt devra être annuellement distribué sous forme de prix à ceux qui, pendant l'année précédente, auront apporté son plus grand bienfait à l'humanité. Cet intérêt sera divisé en 5 parts égales qui seront distribuées de la façon suivante. Une part à qui aura fait la découverte ou l'invention la plus importante dans le domaine de la physique. Une à qui aura fait la découverte ou le progrès les plus remarquables en chimie. Une à qui aura fait la découverte la plus importante dans le domaine de la physiologie ou de la médecine. Une à qui aura produit dans le domaine littéraire l'œuvre la plus significative d'une tendance idéaliste. Une, enfin, à la personne qui aura fait le travail le plus grand ou le meilleur pour la fraternité parmi les nations, l'abolition ou la réduction des armées permanentes, la réunion et l'organisation de congrès de la paix. Les prix de physique et de chimie seront décernés par l'Académie suédoise des sciences, celui de physiologie et médecine par l'Institut Caroline de Stockholm, celui de littérature par l'Académie à Stockholm, et pour les lauréats de la paix par un comité de 5 membres élus par le Parlement norvégien. C'est mon vœu le plus express qu'il ne soit fait dans l'attribution des prix aucune considération de nationalité de quelque ordre que ce soit, et que le plus digne reçoive le prix, qu'il soit ou non d'origine scandinave. Paris, le 27 novembre 1895. Alfred Bernard Nobel.
On ne peut pas, Robert Kopp, ne pas s'interroger un moment sur les ressorts profonds de ce testament, de cette œuvre de Nobel qui a compté jusqu'aujourd'hui, le sujet de notre émission. Certains ont pensé que c'était pour un inventeur de la dynamite, une sorte de revanche morale, une sorte de manière de calmer sa conscience. C'est ce qu'a dit par exemple Einstein en 1945, au moment de la remise des prix Nobel, quelques mois après Hiroshima. Or, on peut tenir une thèse contraire, en tout cas.
Je pense qu'on peut tenir une thèse contraire parce que on peut aussi faire de Nobel l'ancêtre de la dissuasion nucléaire, parce que il existe des textes de Nobel où il dit « je voudrais pouvoir inventer un explosif tellement fort qu'il serait capable d'anéantir l'humanité entière ».
Il écrit « on se rira de moi ». L'homme à la dynamite en me voyant ami de la paix. Il avait prévu
ce genre de critique. Il se considérait comme un ami et un promoteur de la paix.
Mais il disait, mais puisque les hommes n'écoutent pas la raison, il faut bien inventer un instrument de meurtre tellement redoutable que par peur et par instinct de conservation, l'humanité passera à la paix. Plus oui. les moyens de destruction, ajoutait-il, seront terribles, plus on évitera d'assumer la responsabilité d'une déclaration de guerre. Du jour où deux armées pourront, par la découverte d'explosifs perfectionnés, s'entre-détruire complètement, toutes les nations civilisées reculeront avec effroi devant les conflits belliqueux. C'est déjà, au fond, la guerre froide. C'est la guerre froide.
C'est la dissuasion. Nobel était un pacifiste. C'est un solitaire, c'est un homme qui n'était jamais marié, il n'a pas de descendants, on lui prête quelques amitiés féminines, dont cette Madame von Sutter, qui elle-même était une militante pacifiste, et qui avait d'ailleurs une certaine influence sur lui. Le testament qui vient d'être lu, c'est le troisième. Le premier, on ne le connaît pas. Le deuxième est encore plus bref que le dernier. Et le deuxième ne comporte pas le prix Nobel de littérature. Il a donc été ajouté relativement tard. Et on peut se demander si, pour renforcer la thèse du pacifisme de Nobel, le prix de littérature n'a pas été rajouté pour renforcer justement le prix Nobel de la paix.
On s'interroge aussi toujours sur le point de savoir pourquoi il n'y a pas de prix Nobel de mathématiques.
Ce n'est pas une science appliquée pour Nobel. C'est une science trop théorique. Ce qui l'intéressait, c'est l'application. Car dans le testament, il dit « pour le bienfait de l'humanité, pour les progrès de l'humanité ». Or, les mathématiques, les progrès, certes, porteront des fruits, pourront plus tard être appliqués ou être utilisés, mais pas dans l'immédiat.
Donc vous démentez la légende qui voudrait que la maîtresse de Nobel oui. est trompée à un moment donné non, avec un mathématicien. Non, il ne faut pas y croire.
Non, je ne crois pas, parce que si on regarde la chronologie, l'âge ne coïncide pas. Ce jeune polytechnicien, mathématicien, enfin, ça ne marche pas.
Vous êtes visiblement spécialiste des alcôves d'Alfred Nobel. Mais non. Passons sur ce point. Et je voudrais que nous considérions comment, concrètement, dans la ligne exacte de ce qu'a souhaité Nobel, et après diverses turbulences qui ont permis finalement que son testament soit appliqué, comment s'organise la sélection? C'est l'essentiel. Alors,
le délai entre le testament et le premier prix ne s'explique pas seulement par les contestations familiales, car quand il y a beaucoup d'argent, la famille, même si elle est riche déjà, aimerait bien encore avoir davantage. Non, c'est aussi qu'il fallait rapatrier les biens de Nobel de 5 pays différents, d'Italie, d'Allemagne, de Suède, du Brésil d'ailleurs, etc., etc., et réaliser ces biens et les placer. Et c'était une opération assez difficile, et la France n'a pas facilité le travail de l'Académie suédoise, et Nobel d'ailleurs s'est plaint plusieurs fois des lourdeurs de l'administration française. Au moment de son départ en Italie, d'ailleurs, il avait maille à partir avec le fisc à propos de son atelier à Sevran.
Là, il n'y a pas de concordance des temps.
Non.
Alors comment est-ce que les choses se passent à partir de 1901, qui est le premier prix Nobel? Les premiers prix Nobel sont donc décernés soit pour la plupart en Suède, comme nous venons de l'entendre, soit pour le prix Nobel de la paix par une commission du Parlement de Norvège. Il faut rappeler que la Norvège n'est indépendante qu'à partir de 1905. Jusque-là, il s'agit d'une double monarchie.
Exactement. Double monarchie, mais deux parlements. Et à la fin du 19e siècle, les institutions démocratiques en Norvège semblaient être en avance sur ceux de la Suède. La Norvège avait fondé plusieurs comités pour la paix, c'est-à-dire proposant ses services aux belligérants pour trouver une solution. Et c'est cela qui a donné à Nobel l'idée de confier la gestion du prix pour la paix à une commission émanant du Parlement de Norvège.
Alors comment est-ce que ça se passe pour tous ces prix? Comment est-ce que fonctionnent les comités? Quelle est la part de secret et quelle est la permanence de ce système hier, aujourd'hui? Qu'est-ce qui perdure et qu'est-ce qui a changé?
La chimie et la physique, c'est l'Académie des sciences. La médecine, c'est la faculté de médecine.
Médecine et physiologie.
Exactement. La littérature, c'est l'Académie de Suède, qui est l'équivalent de l'Académie française. Et donc, la paix, le Parlement de Norvège. Et chacune de ces institutions nomme un comité, parfois pour 3 ans, parfois pour plus, de sélection restreint, lequel comité de sélection consulte très largement. Alors pour la littérature, par exemple, on interroge non seulement d'anciens prix Nobel, on interroge aussi des critiques littéraires, des universitaires, des éditeurs, on reçoit des questionnaires. Il m'est même arrivé de recevoir un jour un questionnaire, on remplit et on propose quelqu'un.
C'est un marché, le personnalité que vous avez poussée. Le secret permet
ma proposition n'a pas été retenue.
Pour l'instant.
Elle ne peut plus l'être.
Le personnage est mort, autrement dit.
Voilà.
Nous laisserons la devinette pour nos auditeurs et nos auditrices.
Donc, il y a une sélection, et puis ensuite, il y a une liste plus restreinte d'une quinzaine de noms. Le processus commence généralement au mois de février, et puis il se termine au mois d'octobre pour chacune de ces instances. Et c'est au mois d'octobre que les annonces sont généralement faites, et c'est au mois de décembre, le 10, si je ne m'abuse, jour de la mort de Nobel, que la cérémonie de remise a lieu.
Oui, le 10 décembre, effectivement. Il a fallu préciser un certain nombre de règles à mesure que le prix durait. Je veux dire qu'on s'est par exemple posé la question de savoir si on pouvait couronner des morts. Une fois, il y a eu un prix de physique où on a couronné un professeur sans savoir qu'il était mort depuis 3 jours. Mais enfin, c'est un cas assez exceptionnel.
C'est un cas assez exceptionnel. Non, on ne peut pas couronner des morts, ça va à des vivants.
On ne peut pas non plus naturellement nobiliser les membres de l'Académie, encore qu'au début, celle-ci se décernait assez volontiers. Quelques-uns d'entre eux ont été nobilisés par eux-mêmes.
Voilà. C'est-à-dire, cette sélection qui est soumise à l'Académie ou aux Académies et qui conduit à une nomination, évidemment, ce choix ou ces choix ont été contestés dès le départ. Les premiers prix Nobel, c'est 1901.
Et on peut donner le nom immortel, immortellissime du premier prix Nobel français, qui est le poète.
Oui, mais disons au préalable quand même que la France est le pays qui totalise le plus de prix Nobel de littérature, ce qui est quand même assez glorieux. Et le premier, en effet, est français, et c'est Sully Prudhomme. Mais c'est un coup de chapeau à l'Académie française, dont il était d'ailleurs membre.
On a hésité, il est intéressant de le dire, entre Sully Prudhomme et Émile Zola. Leur postérité est un peu inégale.
La postérité est extrêmement inégale, mais c'est là qu'intervient l'idéalisme. Le président, ou plutôt le secrétaire perpétuel de l'Académie de Suède, de l'époque, étant un conservateur, étant un néoplatonicien ou un néocousinien, si vous voulez, n'aimait pas le naturalisme. Était aussi, par ailleurs, ennemi de Ibsen, de Strindberg, de Gerhard Hauptmann, qui, mais bien plus tard, a reçu le prix Nobel. Donc, il est évident que les options littéraires des uns et des autres déteignent un peu sur le choix. Et les premiers choix ont été extrêmement conservateurs en matière de littérature. Et ça s'est ouvert à partir de la Première Guerre environ, lorsque des secrétaires plus ouverts ont été à la manœuvre.
Est-ce qu'on peut citer tout de même les prix Nobel français depuis l'origine, disons jusqu'à Camus ou jusqu'aujourd'hui? Il y a eu Sully Prudhomme, nous n'y revenons pas. Ensuite, Frédéric Mistral, hommage.
Oui, qu'il a partagé avec un Espagnol, si je ne m'abuse.
Et Romain Rolland, en 1915, c'était...
Ah oui, très courageux.
Il était chez vous, en Suisse, Robert
Oui,
Kopp.
Il était réfugié à Genève. C'est à ce moment-là qu'il a publié « Au-dessus de la mêlée », qui lui a valu d'être traité de traître à la fois par les Français et les Allemands.
Et c'était au fond aussi un prix Nobel de la paix en même temps.
C'est un prix Nobel de la paix parce que le pacifisme de Romain Rolland est tout à fait avéré.
Il y a eu ensuite Anatole France en 1921 qui a été assez discuté d'ailleurs.
Qui a été très discuté, oui, dont surtout les surréalistes se sont moqués.
Henri Bergson, le philosophe, mais qui a le prix Nobel de littérature en 1927. Martin Dugard, nous y avons consacré récemment une émission. Jean Martin Dugard vivant.
Oui, ensuite il y a eu Gide.
Son ami, 10 ans plus tard, André Gide, puis Mauriac.
Qui disait d'ailleurs dans son adresse, qui a été lue car il ne s'était pas déplacé pour raison d'âge, que c'est Valéry qui aurait dû l'avoir.
Et puis nous savons qu'après Camus, il y aura Saint-Jean-de-Perse en 60, Claude Simon en 85, Gao Xingjian qui est un chinois naturalisé français, Le Clésio en 2008 et finalement Patrick Modiano et puis Jean-Paul Sartre 1964 qui lui a refusé le prix. Je vais vous faire écouter François Mauriac en 1952, sa réaction. Il est interviewé par Jean Amrouche dans Paris vous parle le 4 novembre 1952.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
J'ai beaucoup d'amis en Suède. Je sais qu'ils sont à l'écoute ce soir. Je leur dis du fond du cœur toute ma gratitude et toute ma joie. C'est en effet pour un écrivain le sentiment, le prix Nobel lui donne le sentiment qu'il dépasse en quelque sorte ses propres limites, même les limites de sa vie. Il a un peu l'impression de la postérité. Je sais que c'est bien prétentieux de parler ainsi. Et c'est pourtant le sentiment qu'on a, qu'on ne s'adresse plus seulement aux hommes et aux femmes de votre clan, de votre petit monde, mais que l'on a écrit quelque chose d'assez valable, d'assez général, d'assez universel, pour être aimé sous toutes les latitudes. Oui, je remercie de tout mon cœur la Suède qui me donne cette certitude.
Double idée, en somme, Robert Kopp, l'universalité et la postérité.
Oui, tout à fait. Parce qu'il y a les deux extrêmes. N'oubliez pas que Mauriac a été traité d'écrivain régionaliste pendant assez longtemps. Et c'est pour cette raison que Gaston Gallimard, pendant longtemps, ne le voulait pas dans la Pléiade.
Il l'a laissé à Grasset.
Voilà. Et là, il fait partie de ce que Goethe appelait la Weltliteratur et qui correspond un peu à la conception que Nobel se faisait de la littérature. La littérature devait être mondiale. Nobel était non seulement un saint-simonien et un social-démocrate, mais aussi un cosmopolite. Il pensait qu'il fallait abolir les frontières ou au moins les rendre perméables. C'était même par avance un Européen et il voulait aller plus loin même, en essayant d'unir tous les pays du monde. C'est le côté un peu idéaliste et un peu utopiste de Nobel. Et là, on voit bien que Mauriac, d'écrivain régionaliste, entre guillemets, accède à un statut d'écrivain universel.
Il faut peut-être dire un mot des prix qui ont d'autant plus frappé qu'ils ont été soit refusés, c'est assez rare, à vrai dire, il y a un seul cas, je crois, c'est Jean-Paul Sartre. Le seul auteur qui ait refusé le prix Nobel en 1964, cela fait beaucoup de bruit, il est quand même inscrit dans la liste des prix Nobel.
Oui, il est inscrit dans la liste et c'est le seul qui a refusé. Il était cohérent avec lui-même, ne voulant pas être couronné par quelque instance que ce soit. Mais il faut rappeler aussi qu'en 64, nous sommes au milieu de la guerre froide. Et parfois, on a reproché au prix Nobel de couronner des dissidents dans les pays de l'Est, ici des écrivains qui étaient des libéraux, des démocrates prônant des valeurs qui n'avaient pas cours ailleurs. Et donc, je pense qu'il y a ces deux raisons, à la fois son esprit d'indépendance et le fait de ne pas vouloir gêner ses camarades communistes.
Oui, il explique que le prix Nobel se présente objectivement comme une distinction réservée aux écrivains de l'Ouest ou aux rebelles de l'Est. Voilà. Sur ce refus, il s'explique au micro de Jacques Chancel, dans la fameuse émission Radioscopie. 9 ans plus tard, On est le 7 février 1973. Écoutons-le.
Les honneurs, j'en ai pas eu beaucoup dans ma vie. J'en ai refusé un, le prix Nobel. Et pour les autres, j'en ai pas eu.
Pourquoi avoir refusé le prix Nobel?
Parce que je ne vois pas pourquoi une cinquantaine de messieurs âgés et qui font de mauvais livres me couronneraient. C'est au lecteur à dire ce que je vaux, ça n'est pas à ces messieurs-là.
L'honneur, c'est d'être lu.
Ben oui, si vous voulez.
C'est tout le même honneur.
On se fait lire, on écrit donc, on se fait lire, c'est tout. On essaie de se faire lire. Il y en a qui ne réussissent pas, pour des raisons diverses, qui d'ailleurs souvent ne viennent pas entièrement en deux. Puis il y en a qui réussissent, voilà tout ce qu'on peut dire. Mais je ne me laisserai jamais donner un prix actuellement ou récompensé par une petite élite de 50 personnes dont je ne sais même pas si elles comprennent ce que je fais.
Alors Robert Kopp ?
Oui, c'est le seul qui est refusé. La raison principale, c'est qu'on est au milieu de la guerre froide et qu'il reproche au Nobel de couronner soit des écrivains de l'Ouest, soit des dissidents à l'Est, et que donc accepter le prix Nobel, ce serait prendre parti ou se laisser embrigader dans un combat qui n'était pas les siens, puisque il était compagnon de route des communistes.
Et cela prolongeait en fait aussi, secrètement ou discrètement, son grand débat avec Albert Camus.
Absolument.
Et puis ceux qui ont pu être reçus, parce que les pays qui étaient ceux des lauréats les ont retenus ou ont été indignés de ce qu'ils en étaient été les récipiendaires.
Les choix de l'Académie, évidemment, se sont plusieurs fois portés sur des dissidents, à commencer par Pasternak en 58, et puis plus tard par Sakharov, et ensuite Solzhenitsyn, et d'autres. Et les uns et les autres, ou ont dû refuser le prix, ou n'ont pas pu aller le recevoir, par crainte de ne plus pouvoir rentrer en Russie.
En Chine aussi, il y a des cas de Chinois.
Alors, en Chine, c'est la même chose. Il y a notamment Liu Xiaobo, qui a reçu le prix Nobel de la paix en 2010, alors qu'il était en prison. Et le ministère des Affaires étrangères de Chine a quand même fait une déclaration officielle pour dire dès avant attribution que c'était un choix totalement erroné. La proposition avait été faite par d'autres dissidents, par exemple par Vaclav Havel, par le Dalai Lama, par Desmond Tutu et par André Glucksmann.
Et André Glucksmann n'a pas été prix Nobel.
Non, il n'a pas été prix Nobel, mais il faisait partie de ce vaste aéropage de gens qui, de temps en temps, étaient consultés. Et là, visiblement, il était dans la boucle. La polémique était d'ailleurs, s'était déclenchée avant même du choix définitif. Et le comité Nobel a répondu à la déclaration du ministère des Affaires étrangères chinois en disant que ces choix étaient totalement indépendants des prises de position de Pékin.
C'est là qu'on rejoint d'ailleurs aussi la question de l'attribution du prix Nobel de la paix en Norvège, qui a suscité le même genre de réaction. Le prix Nobel de la paix a mis un certain temps d'ailleurs à se définir. Je suis sur ce point comme sur d'autres les travaux de Josepha Laroche, qui est beaucoup professeur de sciences politiques à la Sorbonne, qui a beaucoup travaillé sur la sociologie de l'élite des prix Nobel et qui observe qu'il y a eu quatre types d'activités que le prix Nobel a célébré. Le militantisme pacifiste, Frédéric
oui,
Passy a abordé le premier. La doctrine de la paix par le droit. Par exemple, Léon Bourgeois, le grand acteur, un des grands prophètes de la Société des Nations, le président du Conseil français. L'expertise au service de la paix. Alors là, c'est le cas du général Marshall. Le plan Marshall, c'est le seul militaire, je crois, qui a eu le prix de la paix. Daga Marshall,
Les grands négociateurs.
Daga Marshall, qui était effectivement
le
secrétaire général de l'ONU, qui est mort dans un accident qui était probablement un crime. Ouais. Et puis aussi le bénévolat missionnaire du type Albert Schweitzer.
Voilà.
On peut faire cette catégorisation.
Oui, on peut faire cette catégorisation. Ce sont des activités. Les négociateurs forment une catégorie très, très importante.
C'est Brillant et Stresemann en 1926.
Kissinger.
Alors là, c'est évidemment extrêmement discuté. Kissinger voilà. Et le Ducto, qui était
voilà, qui a refusé.
Son homologue vietnamien. Et évidemment, Kissinger, dont l'activité n'a pas été toujours celle d'un pacifiste. Vous voyez son rôle, par exemple, dans le cas du Chili, pour faire tomber Pinochet et d'autres. Le cas de Kissinger a évidemment suscité beaucoup de réactions. Il y a même une chanson d'Henri Salvador, que je vous épargne, qui se moque de Kissinger et de l'éducto à cette occasion. Ouais.
Mais même le prix Nobel de la paix, car existe-t-il cause plus noble, même le prix Nobel de la paix a été discuté dès le départ. Le premier a été attribué à Henri Dunant, et certains critiques ont dit « oui, mais ce n'est pas vraiment un pacifiste, c'est simplement quelqu'un qui veut atténuer les misères et les douleurs et les dommages de la guerre. Il veut soigner les blessés, il veut créer une instance qui permet d'évacuer les blessés. Ce n'est pas du vrai pacifisme. »
Un compatriote à vous, Robert Kopp, puisqu'il est suisse et qu'il a commencé son activité sur les champs de bataille de la guerre de Crimée au début du Second Empire.
Et on revient à cette guerre de Crimée à laquelle la famille Nobel est liée dès le départ.
Mais comme fondateur de la Croix-Rouge, il apparaît plus en effet comme un introducteur de règles dans la guerre que de l'affirmation de la paix. C'est ce qu'on a parfois critiqué lorsqu'on lui a attribué le prix Nobel, le premier, avec Frédéric Passy que j'évoquais tout à l'heure.
Voilà. Mais plus tard, la Croix-Rouge internationale a également été distinguée, et c'était même en 1917.
D'ailleurs, le prix Nobel de la paix peut aller à des organisations et pas seulement à des individus.
Oui.
Ce qui pose d'ailleurs un problème intéressant, parce que plus le temps a passé du côté des sciences, plus le travail collectif s'est imposé. Or, on ne peut pas donner un prix à plus de 3 personnes.
Oui, seul le prix Nobel de la paix peut être donné à des institutions. Pour les scientifiques et les littéraires, il est partagé au maximum parmi 3 lauréats. Or, déjà, entre les deux guerres, les découvertes scientifiques étaient très très souvent le fruit d'un travail collectif dans un laboratoire et même le fruit d'une collaboration entre différents laboratoires situés et aux États-Unis et en Europe et ailleurs. Et l'attribution a été souvent été critiquée pour cette raison. On a dit, voilà, on donne tel prix à un physiologiste ou à un médecin, mais la découverte pour laquelle il est distingué a été faite 10 ans auparavant par un de ses assistants qui a travaillé avec lui, qui a quitté ensuite son laboratoire pour aller travailler ailleurs, etc. Il y a sans arrêt ces querelles d'antériorité dans les découvertes scientifiques, car il est de plus en plus difficile de dater vraiment la découverte précise. Il faut peut-être rappeler que dans la conception de Nobel, l'inventeur est un homme isolé. C'est la conception de l'inventeur, du découvreur, du génie, qui repose sur une idéologie qui est très 19e siècle.
Par opposition à l'innovateur qui va transposer cette invention dans l'industrie. Il était à la fois un inventeur et un innovateur, notre Nobel.
Oui, tout à fait, tout à fait. Et donc, ces querelles d'antériorité sont récurrentes, comme sont récurrentes les querelles « faut-il favoriser telle discipline plutôt que telle autre ?» Je prends un exemple. En 1978, on a donné le prix Nobel de médecine à Werner Harbert, à Daniel Nathan et à Hamilton Smith pour la découverte de ce qu'on appelle les enzymes de restriction. Ça permet de séquencer l'ADN. Et quelle a été la critique ? On favorise la manipulation génétique. Parce qu'en effet, c'est une découverte capitale pour les manipulations génétiques. Et donc, on reproche périodiquement au prix Nobel de favoriser telle ou telle discipline. Comme on reproche maintenant aux différents prix Nobel de sciences de cimenter les disciplines, parce que aujourd'hui, on ne distingue plus entre la physique et la chimie et la médecine. On fait de l'interdisciplinaire.
C'est un peu parfois ce qui arrive avec les départements dans les universités.
Voilà.
Il y a un autre type de polémique. Ce sont les reproches faits, en particulier du côté du prix Nobel de la paix, quand on a dit que la Norvège, le Parlement, avait voulu intervenir dans des accords internationaux majeurs. Je pense en particulier à ce qui s'est passé quand, en 1995, le prix Nobel a été donné à Joseph Rotblat, le dernier survivant de la fameuse organisation Pugwash, faite par des scientifiques contre l'utilisation des armes atomiques. L'organisation avait reproché vivement à la France, on est au début de la présidence de Jacques Chirac, la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique. Écoutez cette archive, intervention de Joseph Rotblat et réaction du Premier ministre Alain Juppé.
En couronnant aujourd'hui un militant antinucléaire de 87 ans et son organisation, le jury Nobel d'Oslo respecte à la lettre la volonté de son fondateur. Joseph Rotblat est le seul survivant des 11 scientifiques qui ont créé en 1957 le mouvement Pugwash. Albert Einstein en faisait partie, comme d'autres concepteurs de la bombe atomique. À l'annonce de son prix Nobel, Joseph Rotblat a été terrassé par la surprise, paraît-il, puis le physicien britannique s'est repris et par l'intermédiaire des médias, il s'est adressé à la France et à Jacques Chirac. Écoutez Joseph Rotblat devant les caméras de TF1.
J'espère que c'est un message que nous, les scientifiques, adressons depuis longtemps, que la menace nucléaire doit cesser et que toutes les armes nucléaires doivent être éliminées. Le mouvement Pugwash a protesté auprès du président Chirac contre la reprise des essais nucléaires. Nous lui avons écrit en soulignant qu'il n'y avait plus de nécessité à reprendre ces essais pour raison de sécurité. Nos efforts ayant été récompensés par le prix Nobel, j'espère que le gouvernement français y réfléchira à deux fois avant de poursuivre ces essais.
Première réaction d'Alain Juppé. Selon lui, l'attribution du prix Nobel de la paix à des antinucléaires ne change pas l'action de la France. Écoutez.
Je ne prends ni note ni ne fais de commentaire là-dessus, et c'est pas ça qui soit de nature, en quelque manière que ce soit, à nous faire réviser la politique que nous avons engagée pour des raisons d'intérêt national.
Trouvez-vous surprenant tout de même qu'un gouvernement, au fond, vous fasse la morale, qu'un gouvernement étranger ?
D'abord, c'est un jury. Quant au gouvernement, j'ai déjà dit que, au sein de l'Union européenne, nous étions en droit d'attendre un peu de solidarité. La Norvège n'y est pas encore, mais elle postule ou elle postulera demain. Alors j'espère que l'esprit européen fera des progrès d'ici là.
Est-ce que l'esprit européen fait des progrès contre le prix Nobel de la paix, Robert Kopp ?
Non, je ne pense pas. Là, en l'occurrence, chacun est dans son rôle. Le lauréat ne fait que poursuivre la tradition, puisqu'il y a une tradition pacifiste parmi les prix Nobel de la paix. Et d'ailleurs, cette Bertha von Suttner, que nous avions évoqué, qui était une amie de Nobel et qui, en 1905, a reçu le prix Nobel de la paix, était une militante pacifiste.
La grande baronne.
Exactement.
Un autre sujet de discussion, notamment parmi les critiques des prix Nobel, c'est celui de la prééminence possible de l'Occident par rapport au pays neuf ou par rapport à l'Asie. Qu'est-ce qu'il faut en penser, Robert Kopp ?
Elle est, je dirais, fatale dans la mesure où les sciences telles que nous les comprenons sont d'origine européenne.
Mais la littérature ?
La littérature...
Le Japon a été en retard du point de vue l'attribution des prix Nobel de littérature.
Oui.
La Chine aussi.
Oui, mais il y a évidemment un européocentrisme tout à fait évident. Il faut aussi penser aux compétences des jurys. Il faut penser à la vivacité ou à l'absence des échanges littéraires. Qu'est-ce que l'on savait entre les deux guerres de la littérature sud-américaine? Existait-il? Je ne connais pas beaucoup de grands auteurs de cette époque qui soient accessibles en livre de poche aujourd'hui, en traduction française par exemple.
Je crois que c'est Gabriela Mistral, la poétesse chilienne, qui a été une des premières.
Absolument, une des premières. Donc il y a eu de ci, de là, quelques lauréats venant d'autres continents, mais il est évident que pour les sciences, c'est fatalement européen, puisque les sciences sont européennes jusqu'à la Deuxième Guerre. Et on peut même dire plus, les prix Nobel des sciences, enfin physique, chimie, médecine, sont en grande partie allemandes jusqu'à la Deuxième Guerre et ensuite américains, ce qui en partie revient au même dans la mesure où il y a eu beaucoup de scientifiques allemands qui ont quitté l'Allemagne de Hitler pour s'installer aux États-Unis.
Oui, Joseph Alain Roche, dans le livre que j'évoquais sur les prix Nobel, la sociologie des prix Nobel, donne des graphiques très stimulants qui montrent en effet que l'Allemagne a été, de 1901 à 2011, la première dans le domaine de la physique, juste après les États-Unis, évidemment, qui ont...
Voilà. C'est-à-dire l'Allemagne a été assez dominante jusqu'à la Deuxième Guerre et les États-Unis ont pris la relève.
Mais en physiologie et en médecine, le Royaume-Uni passe avant l'Allemagne et avant la France.
Ce sont des palmarès qui sont évidemment un peu discutables, surtout aujourd'hui où les chercheurs sont devenus très mobiles. Est-ce que un Indien qui travaille dans un laboratoire en Californie et qui est devenu américain et qui reçoit le prix Nobel, est-ce qu'il faut le comptabiliser dans la colonne des prix Nobel américains, ou est-ce qu'il faut tenir compte de ses origines indiennes? C'est un peu contraire, ces statistiques sont un peu contraires à l'idée même de Nobel, dans la mesure où c'est cette concurrence entre les États, ce n'était pas du tout quelque chose qu'il aurait voulu favoriser.
Autre question, Robert Kopp, autre question, la place des femmes dans la longue durée, 110 ans d'attribution des prix Nobel. Écoutez donc ce sujet consacré à l'attribution du prix Nobel de la paix 2011 à trois femmes. C'est un extrait d'Intersoir le 7 octobre 2011. Et puis après, vous me direz ce que vous en pensez, quelles leçons vous en tirez.
Le prix Nobel de la paix 2011 a récompensé tout à l'heure trois femmes. Femmes de combat, dit-on, combat qui évidemment doit conduire à la paix. Ces trois femmes, ce sont une yéménite de 32 ans, Tawakkul Karman, journaliste qui lutte chez elle dans la mouvance du printemps arabe, et puis deux libériennes. La première, Lema Gobui, à l'origine d'un mouvement pacifique, en l'occurrence une grève du sexe qui a contribué à mettre fin à la Deuxième Guerre civile. Récompensée également la présidente du Liberia, Ellen Johnson Sirleaf. Tout le sens de ce prix réside en fait dans l'association des trois lauréates. Écoutez les explications du président du comité Nobel norvégien, Torbjørn Lagland, propos recueillis et traduits par Grégory Tervel.
Nous avons souhaité mettre en lumière le rôle que les femmes doivent jouer dans la construction de la démocratie et de la paix. C'est ce qui s'est passé au Liberia et c'est ce qui doit se passer dans le monde arabe. Nous avons senti que le moment était venu pour ce coup de projecteur sur les femmes, principalement à cause des événements de ce début d'année dans les pays arabes. Et nous ne pouvions pas ne pas récompenser le meilleur exemple de ce que des femmes ont pu réaliser dans ce domaine, à savoir le Liberia. Les Magboui a mobilisé les femmes à l'occasion des négociations d'Accra pour la paix dans le pays, et c'est l'une des raisons pour lesquelles un accord de paix a été trouvé. Ellen Johnson Sirleaf a endossé la responsabilité politique pour faire appliquer cet accord. Quant à Tawakkul Karman, elle a commencé à militer pour les droits de l'homme bien avant le début du printemps arabe. C'est une femme extrêmement courageuse, mère de trois enfants, qui vit dans une société très autocratique. On peut la considérer comme un bon symbole de tous les autres militants des droits de l'homme de la région. Le comité Nobel se doit de récompenser les plus courageux parmi les plus courageux.
La grève du sexe, c'est Lysistrata d'Aristophane qui en redonne vie.
Absolument, parce qu'on voit qu'il y a des permanences dans la longue durée. Non, évidemment, il s'agit là d'un document qui marque un changement d'époque. Et c'est tout à fait important de le souligner. Les femmes sont largement minoritaires jusqu'il y a très peu d'années. Sur plus de 800 lauréats, il y a une cinquantaine de femmes. Évidemment, on les connaît ou on en connaît certaines, comme Marie Curie.
Mais il avait fallu que son mari, Pierre Curie, insista auprès du jury pour que les deux soient associés.
Exactement, d'ailleurs, elle a été même couronnée une deuxième fois. Et puis sa fille aussi a été couronnée.
Non sans souffrance, par parenthèse, puisqu'elle expliquait qu'elle était inondée de lettres et de visites de photographes et de journalistes. On aimerait creuser le sol pour y trouver une petite place. Nous refusons, avec l'énergie du désespoir, les invitations à des banquets que les gens veulent organiser en notre honneur. Elle ajoutait « Notre vie a été complètement gâchée par les honneurs et par la gloire. Je réponds à peine à toutes les lettres, mais je perds du temps à les lire. » Je signale ça en passant.
C'est le revers
de la gloire.
Le revers de la notoriété, évidemment. Il y a une sorte de starisation de ces prix Nobel dès le départ, et il est difficile parfois de s'en défendre. Non, mais pour revenir à l'extrait qui a été diffusé tout à l'heure, ça marque un changement d'époque, c'est-à-dire la place accrue des femmes dans tous les domaines, que ce soit les sciences, la littérature, la politique. Et puis, ça marque aussi l'ouverture, car ce sont trois femmes qui ne viennent pas des pays européens, ni d'Amérique. Ce sont des pays qui sont en difficulté, qui sont en train de se construire. Ce sont des minorités qui se battent pour les droits humains et pour la démocratie.
On peut d'ailleurs conclure cette conversation en rappelant que le scandale qui entoure l'Académie suédoise ne s'explique que parce que on accuse de harcèlement le mari d'une, je le disais, le mari d'une académicienne, et que avant le mouvement MeToo, on peut penser que cela ne serait pas arrivé.
Oui, bien sûr. D'ailleurs, les commentateurs l'ont dit, c'est une sorte d'histoire Weinstein à la suédoise. Et parce que le personnage était protégé par une académicienne, ça a terni la réputation même de l'académie et suscité toute une série de démissions, et donc a paralysé l'académie au moins pour un an.
Nous terminons comme nous avons commencé. Je voudrais signaler que je viens de recevoir, je n'ai guère pu en faire mon miel, une biographie d'Alfred Nobel qui sera en librairie dans quelques jours, de Jean-François Bataille, Alfred Nobel inconnu célèbre, publié par Sorbonne Université Presse. Alfred Nobel, regard sur sa vie, son œuvre et sa postérité. J'ai cité aussi les travaux de Josepha Laroche, le prix Nobel sociologie d'une élite transnationale paru chez Libère en 2012 et plutôt un très précieux petit que sais-je, les prix Nobel. La première édition était aux Presses universitaires de France en 1995. Vous-même, je rappelle, Robert Kopp, que vous vous êtes toujours beaucoup intéressé aux célébrations, aux prix. Vous avez publié un très précieux petit ouvrage sur le prix Goncourt dans la collection Découverte, la fameuse collection Découverte chez Gallimard. Et puis, qu'est-ce que vous nous préparez comme prochain ouvrage ?
Eh bien, je suis en train de terminer un petit essai un peu vif intitulé « À quoi servent les humanités ?» qui devrait paraître à la fin de l'année aux éditions Pierre-Guillaume de Roux.
Eh bien, il est temps que nous le sachions.
Je compte sur vous.
Vous pourrez trouver, mes chères auditrices, mes chers auditeurs, une bibliographie complète sur notre site avec les références des documents sonores que nous avons utilisés. Et vous pourrez également écouter, réécouter cette émission, la podcaster aussi. Ce que le podcast a pu offrir pour la diffusion de Concordance des temps depuis 20 ans est assez prodigieux. Au début, nous n'étions écoutés qu'en modulation de fréquence, en direct et sur une partie du territoire français. Les choses se sont améliorées. Samedi prochain, nous parlerons des relations entre Paris et l'État. C'est l'actualité. L'autonomie de Paris, jusqu'où ? Et je recevrai pour en parler Isabelle Bacouche. Et puis, l'émission Sœur, lundi matin, vous retrouverez à 9h la fabrique de l'histoire de notre cher Emmanuel Laurentin, qui consacrera sa semaine à la guerre de 30 ans. C'est un anniversaire. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, une émission qui a été préparée par Nathalie Lempereur, magnifique collaboratrice pendant des années, qui désormais déploiera ses talents au service d'une autre émission de la chaîne. Nous la regrettons beaucoup. Une émission préparée aussi par Jeanne Guéroux, après Patrick Molinier et Anne Kobilac. une réalisation de Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son YouTube Diego Aclopez, avec à la discothèque Nathalie Rouvillain, et pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel, Annie Lozana et Samantha Schmitt. Et puis je remercie aussi la documentation et la bibliothèque de Radio France, dont l'apport est toujours précieux. Et dans quelques instants, vous allez retrouver Christine Ockrent pour Affaires étrangères.